Je présente l'intervenant d'aujourd'hui qui est le professeur Yves Guermont. Le professeur Yves Guermont est né en 1936 à Cherbourg. Il est agrégé et docteur d'État en géographie. Il est professeur à l'Université de Rouen, faculté des lettres et sciences humaines, directeur de l'équipe de recherche modélisation et traitement graphique en géographie, qui est une équipe intégrée dans l'unité CNRS Identité et différenciation des espaces, de l'environnement et des sociétés. Il est spécialiste des systèmes d'information géographique, de l'analyse spatiale, de la géographie sociale et de l'aménagement urbain. Il est président du Conseil de perfectionnement de l'École nationale des sciences géographiques, le NSG-IGN. Il est président également du directoire scientifique du Festival Géographie de Saint-Dié. Il est membre du comité de rédaction de plusieurs revues, dont l'Espace géographique, MapMonde et CyberGéo. Il dirige une collection aux presses universitaires de Rouen qui s'intitule « Nouvelle donne en géographie ». Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment « Le système de différenciation spatiale en agriculture » paru en 1979 aux éditions Honoré Champion et « Analyse de systèmes en géographie » paru en 1984 aux presses universitaires de Lyon. Il collabore aussi à des revues comme Esprit ou Le Monde très régulièrement. Voilà, professeur Guermont, je vous laisse la parole pour 50 minutes. Je vous remercie.
Bien, merci. Vous avez eu 99 conférences qui vous ont incité à revenir, alors j'espère que la centième ne va pas vous décourager. Je voulais donc vous parler des cartes. J'aurais bien aimé, pour commencer, vous montrer cette carte-là, qui est une nouvelle carte de l'Europe, pour suivre les opérations de la guerre de 1914. Cette carte, je l'avais dans mes archives, elle est un petit peu abîmée, mais je crois que c'est quelque chose qui a une certaine valeur et qui maintenant va prendre de la valeur chez les antiquaires. Donc je la replie consciencieusement et je ne vais plus vous la montrer, je vais la conserver éventuellement la mettre en vente dans un magasin d'antiquité. Donc ces cartes, bien, ont changé maintenant. Elles ont changé très largement grâce à l'informatisation. Et je veux dire qu'elles ont changé en mieux. Parce que, bien sûr, l'informatisation, ça a énormément bouleversé les choses depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Dans certains cas, ça posait des problèmes. Par exemple, pour l'écrit, c'est vrai que l'informatisation concurrence l'écrit. On peut avoir maintenant des romans sur Internet. Mais on ne peut pas dire que ça ait changé l'écrit en mieux, parce que vous pouvez avoir un roman sur Internet et vous le sortez sur votre imprimante d'ordinateur et puis vous l'agrafez avec votre agrafeuse de bureau. C'est évidemment beaucoup moins joli qu'un livre relié de votre bibliothèque. Donc, dans ce domaine, on ne peut pas dire que l'informatisation ait fait gagner grand-chose à l'écrit. Mais pour la carte, je dirais que c'est tout à fait le contraire. La carte papier présentait tout de même beaucoup d'inconvénients. D'abord, vous avez l'exemple de cette carte que je viens de vous montrer, mais vous avez l'exemple des cartes Michelin qui sont dans le tiroir de la boîte à gants de votre voiture, qui sont toujours déchirées à l'endroit où il faut les plier. Ce qui fait que lorsqu'on veut garder des cartes classiques d'une façon sérieuse, on est obligé de les mettre dans des tiroirs, des grands tiroirs à plat, c'est le cas du cadastre. On a justement des meubles spéciaux avec de grands tiroirs larges qui permettent de conserver bien tranquillement des cartes à plat pour ne pas les abîmer. L'informatisation, ça justifie le titre de ce que je voulais vous dire, ça permet à la carte de sortir des tiroirs. Ça permet à la carte d'être plus transportable et ça permet surtout de répondre à un argument qui était souvent donné par des gens qui disaient « moi, je ne sais pas lire les cartes ». Et il y a des gens, il y avait des gens autrefois qui ne savaient pas lire une carte. Bien, ce qu'on voudrait maintenant, c'est que cette remarque-là n'existe plus, que tout le monde puisse facilement lire une carte. Les gens ne savaient pas lire une carte parce qu'il y a deux problèmes qui compliquent la représentation cartographique. Le premier est bien connu, c'est que la Terre est une sphère et que la carte est à plat. Donc, qu'il faut déjà avoir un système de géoréférencement qui permette de restituer une surface qui est en gros sphérique, pas tout à fait d'ailleurs, plutôt un patatoïde, mais enfin en gros sphérique, la reporter sur un plan. Et puis, le deuxième élément, c'est le relief. Et bien sûr, sur une carte à plat, le relief, on est obligé de le figurer artificiellement. Pendant la guerre de 14, on parlait tout à l'heure, on avait des cartes qu'on appelait les cartes d'état-major, qui servaient à l'état-major pour repérer le terrain, et le relief était figuré par des petites hachures, plus ou moins serrées, selon que le talus était plus ou moins abrupt. Ensuite, on a utilisé des courbes de niveau, puis des ombrages. On suppose que, par exemple, l'éclairage vient d'un côté de la carte, ce qui fait que tout ce qui est à l'ombre est représenté d'une façon un peu plus foncée. Mais effectivement, cette représentation du relief est un peu artificielle. Donc il y a une espèce de modèle cartographique qui s'est imposé depuis des siècles, qui en fait donne une certaine perception de la surface de la Terre, mais qu'il faut comprendre pour arriver à en tirer parti. Mais qui en fait est quelque chose de difficile, parce que en fait il y a une transformation de ce qui se voit réellement. Donc c'est peut-être, le premier avantage de l'informatisation, c'est de permettre de mieux représenter le relief. Ce sont les cartes en trois dimensions, les cartes en 3D. La carte en 3D permet vraiment de montrer le relief tel qu'il est, et même de tourner autour d'un relief, comme si on était en hélicoptère, pour le voir sous différents angles. Donc ça, évidemment, vous pouvez toujours tourner votre carte Michelin dans tous les sens, vous ne verrez pas le relief différemment. C'est un des gros un premier avantage. L'autre avantage de l'informatisation, je vois deux avantages essentiels. Le deuxième avantage, c'est la possibilité de superposer des figurations différentes du paysage. Bon, je cherche une circonvolution parce que le terme anglais qu'on emploie couramment pour ça, c'est l'overlay, du terme anglais layer, qui est des couches. C'est la superposition de couches. La couche d'information, c'est par exemple la couche relief. Bon, cette couche relief, on peut lui mettre par-dessus, si c'est exactement dans le même système de géoréférencement et si c'est exactement à la même échelle, on peut lui mettre par-dessus les routes, on peut lui mettre par-dessus les limites de communes, on peut lui mettre par-dessus le pourcentage de cadres supérieurs, ou le pourcentage de bovins, ou tout ce qu'on veut, ce qu'on peut superposer sur la carte en couches successives. Donc, cette technique de superposition des couches, elle donne un gros avantage, en particulier, et c'est un avantage récent. Je peux dire que, bon, moi qui suis un vieux professeur, quand j'ai commencé ma carrière, il y a une vingtaine d'années, on s'est posé un problème pour l'informatisation, qui était qu'on disposait de cartes routières, qu'on a pu informatiser, et puis on avait les limites de communes. Mais le système de référencement n'était pas exactement le même, et quand on superposait les routes aux limites de communes, ça paraissait bien, vu de loin, mais quand on en discutait avec les maires des communes de banlieue, ils nous disaient « Ah, mais la route, elle ne passe pas du tout dans ma commune, elle passe dans la commune d'à côté. » Alors évidemment, pour des géographes, ça ne faisait pas très sérieux de même pas savoir si la route passait dans la commune du maire en question. On avait donc du mal à superposer les deux choses. Et pour que ce soit superposable, il faut que ce soit exactement à la même échelle. Et dans le même système de géoréférencement. Donc on puisse avoir les cartes des limites communales, qu'on puisse mettre le réseau hydrographique, qu'on puisse mettre également les routes, etc. De la même façon, quand on passe d'une commune à l'autre, ou pire, avec l'Europe, d'un pays à l'autre, eh bien, il faut qu'aux frontières, les tracés soient les mêmes. Le problème s'est posé aussi il y a une quinzaine, une vingtaine d'années entre les États-Unis et le Canada, où on voyait des routes canadiennes qui aboutissaient à la frontière à un cul-de-sac, et les routes américaines de l'autre côté aboutissaient également à un cul-de-sac, et il a fallu raccorder ces routes aux frontières, et il suffisait de très peu de choses, en fait, pour que les deux cartes ne coïncident pas. Donc, tout ça, ça impose un énorme bouleversement à la cartographie. Et c'est peut-être ça dont il faut prendre compte. Qu'il faut prendre en compte, c'est qu'actuellement en cartographie, tout est à refaire. Il y a un énorme chantier, tout est à recomposer depuis le départ. Il faut tout informatiser. Et tout informatiser, ça suppose changer bien souvent de façon de voir. Par exemple, s'habituer à ce que dans des banques de données, on ait toujours un référentiel spatial. Très souvent, dans les banques de données qui existaient, dans les administrations, il y a encore 10 ans ou 15 ans, eh bien, on avait des séries de noms, des caractéristiques, des familles, mais et des adresses plus ou moins vagues. Par exemple, 12 rue Aristide-Briand. Problème, c'est que la rue Aristide-Briand, si vous voulez la transférer sur une carte, il faut que le logiciel informatique la retrouve. Et si au lieu d'écrire Aristide-Briand, c'est marqué A. Briand ou simplement Boulevard Briand, eh bien à ce moment-là, le logiciel ne le retrouvera pas. Donc, il faut s'habituer maintenant à ce que dans les bases de données utilisées par les administrations ou par les commerçants, ou par les industriels, on ait un référentiel spatial strict, c'est-à-dire que, par exemple, et c'est le plus simple, c'est ce qu'utilisent habituellement les Américains dans le système TIG, c'est tout simplement les coordonnées en XY dans un repère donné, par exemple le repère Lambert 2. Et effectivement, c'est ce que donne le GPS, par exemple, le système de GPS, c'est Global Positioning System, c'est ce petit appareil qui permet de savoir où on est exactement en X et en Y selon un système particulier de coordonnées. Donc rien n'empêche maintenant, rien n'empêcherait que lors du recensement, il faudrait voir avec la CNIL, mais enfin, rien n'empêcherait que lors du recensement, bien, on ait les coordonnées en X et Y. On a bien le numéro de la sécurité sociale des gens, qu'on ait aussi leurs coordonnées en X et Y de leur logement ou de leur lieu d'habitat. Ça, c'est un des points. Et tout cela, et puis l'autre problème, c'est de transformer en quelque chose qui soit utilisable sur un support informatique des cartes qui sont sur papier. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette informatisation des cartes. Sachez qu'il y a deux sortes. On peut soit scanner des cartes, soit les digitaliser. Scanner des cartes, ça suppose suivre toutes les lignes et toutes les colonnes d'une carte, et puis à chaque fois indiquer si le point en question est plus ou moins foncé. Donc, on peut restituer, par exemple, une carte de relief avec un scannage. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut plus retravailler une carte scannée. L'autre solution, c'est la digitalisation. Ça consiste à suivre des contours, c'est-à-dire à utiliser un modèle cartographique, enfin un modèle géographique qui a été mis au point justement un peu au même moment que l'informatisation dans les années 60 par les géographes anglais et américains. C'est-à-dire que se dire que la géographie, c'est très simple. Sur le plan des structures, la géographie, c'est des points, des lignes et des surfaces. Et vous pouvez chercher par ailleurs tout ce que vous voudrez, vous ne trouverez rien d'autre en géographie, le reste c'est de la littérature qu'on plaque sur la géographie. Mais la géographie, ce sont des points, des villes, des usines, des exploitations agricoles, des lignes, les routes qui les rejoignent, et des surfaces, c'est-à-dire ce qu'il y a autour, soit des banlieues, soit des lieux, soit des zones industrielles, soit des zones agricoles. Et cette digitalisation, eh bien, elle se fait très simplement, puisque les points, on a leurs coordonnées en X et Y dans un système géoréférencé. Les lignes, ça rejoint des points, c'est un jeu d'enfant. Et les surfaces, eh bien, c'est encadré par des lignes. Donc, à partir du moment où le passage était fait entre cette manière de voir la géographie et l'informatique, eh bien, la digitalisation devenait facile. Elle devenait facile, mais elle est coûteuse, parce que c'est un énorme travail, je vous disais, qui est amené actuellement. Dans un article du Monde récemment, on citait le fait que la firme Teleatlas, qui est une firme étrangère, mais qui vend beaucoup en France, a investi depuis 2 ou 3 ans plus d'un milliard de francs dans la l'informatisation cartographique. Et peut-on dire que c'est presque, ce n'est pas à fond perdu, mais pour le moment, la société ne fait pas vraiment de bénéfice, parce que pour récupérer ce milliard, il va falloir plusieurs années. Mais il est évident que cette informatisation, elle va servir maintenant pendant peut-être 1 siècle ou 2 siècles, peut-être plus, je ne sais pas ce qui se passera. Mais il y a donc un énorme travail d'investissement qui est à faire en ce moment, que d'ailleurs l'IGN a du mal à faire, parce que c'est un institut national, et il est difficile de faire toujours comprendre à l'administration que lorsqu'on fait des investissements sur le long terme, sur plus d'un siècle, l'informatisation actuellement, il ne faut pas chercher la rentabilité immédiate. C'est-à-dire, il ne faut pas faire payer à prix coûtant des cartes informatisées au prix qu'elles ont coûté à être informatisées cette année, mais il faut se dire que ce résultat financier, on l'obtiendra sur de nombreuses années. Donc ça pose un problème politique, là, qui est l'investissement qui est à faire pour informatiser. Et c'est malheureux de voir que ce sont des sociétés, en particulier étrangères, comme Navtech ou Teleatlas, qui ont assuré une partie de ce travail d'informatisation, bien souvent avant l'IGN. Mais l'IGN s'y met aussi. Dieu merci. Bien, et puis pour finir cette introduction, je voudrais qu'on voit quelques petites choses concrètes. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de cartes sur Internet maintenant, tout le monde l'a vu. Si on a le temps, j'essaierai de vous montrer quelques sites Internet. Il y a du bon et du mauvais, il y a le pire et le meilleur sur Internet, parce que ce n'est pas parce qu'une carte est informatisée et sort sur Internet qu'elle est bonne. Il y a de nombreux exemples de cartes très médiocres sur Internet. Mais c'est tout de même bon signe, parce que si un certain nombre d'entreprises, par exemple, estiment que c'est bien de montrer montrer une carte pour montrer où elles sont implantées, ça prouve qu'elles accordent un gros intérêt à la carte et à la géographie. Donc, ça ferait simplement de l'améliorer. Bon, alors, sur le plan de l'organisation, je voudrais essayer de vous montrer, c'est peut-être un peu rapide, deux ensembles d'applications de la géographie informatisée. Deux ensembles d'applications. Je pense que d'un côté, mais je vais essayer de vous le montrer donc sur cet ordinateur, j'espère qu'on n'aura pas de problème technique. Je crois qu'il y a deux grands domaines où la carte informatisée a un rôle. Bien sûr, comme la carte traditionnelle, elle sert pour mieux se repérer, et on verra quelques exemples de ce repérage. Et puis, mieux que la carte traditionnelle, ce que la carte traditionnelle ne faisait pas, elle permet d'opérer des simulations. C'est-à-dire qu'on peut imaginer ce qui se passerait si les choses n'étaient pas comme elles sont actuellement. Donc, on va prendre ces deux points, si vous voulez, le repérage et la simulation. Alors, je vais commencer par... je ne voudrais pas trop rentrer dans le domaine technique, mais je voudrais quand même prendre un petit exemple technique qui, bon, sans rentrer trop dans le détail, mais je crois que le point essentiel de la modification informatique, c'est la représentation du relief. Donc, ne regardez pas la légende, mais seulement le dessin qui est ici, alors qui représente la région de Rouen. Bon, je vais vous dire, évidemment, je m'en excuse, mais la plupart des cartes que je vais vous montrer concernent la région rouennaise, parce qu'elles ont été faites dans notre laboratoire, et parce que, comme elles sont faites à la maison, elles sont libres de droit. Donc, on peut les reprendre sans problème, puisqu'elles sont faites par nous. Mais enfin, ça peut être fait sur n'importe quelle autre ville. Donc, ce qu'on a reporté ici, tout simplement, c'est un MNT, c'est-à-dire un modèle numérique de terrain en niveau de grille. Modèle numérique de terrain, c'est tout simplement une grille qui nous donne, avec un pas de 75 mètres ici, c'est-à-dire tous les 75 mètres, une altitude. Pourquoi 75 mètres? Oui, pas aussi parce que je dois dire que ce MNT que nous avons acheté, c'est un MNT américain, parce qu'il était moins cher que le MNT de l'IGN, et que l'université n'avait pas trop de crédit. Mais le MNT de l'IGN est un peu meilleur, parce qu'il est au pas de 50 mètres. Bien, donc on a un MNT au pas de 75 mètres. Donc on a des altitudes par point élémentaire d'image, ce qu'on appelle, vous savez, un pixel. Pixel, ce qui est un terme anglais qui signifie picture element, c'est-à-dire l'élément de minimum de l'image. Donc pour chaque pixel de 75 mètres, on a une altitude. Et ces altitudes, on les représente ici en niveau de gris, c'est-à-dire, bon, on aurait pu prendre une autre légende, mais plus le pixel est foncé, plus l'altitude est faible, et plus le pixel est clair, plus l'altitude est élevée. Donc la vallée de la Seine, qui est ici, est enfoncée, puisqu'elle est à moins de 20 mètres. Bien, évidemment, vous me direz, ça, c'est pas très joli, et on va essayer d'améliorer cette image donc, du MNT pour faire mieux apparaître le relief. Alors, c'est ce qu'on a fait ici, en reportant donc ces pixels, en les replaçant selon des classes. Alors, on peut les classer soit en mettant les plus basses en couleur foncée et puis les plus élevées en couleur claire, ou faire l'inverse, c'est ce qu'on a fait sur l'image, les plus basses en couleur claire et les plus foncées et les plus élevées en couleur foncée. Bien, donc on a la vallée de la Seine qui apparaît ici, et les pixels ont été rangés en classes d'altitude, donc 0 à 20 mètres, 20 à 40, 40 à 60, etc. C'est un avantage, c'est qu'on dispose d'un fichier ici, avec les altitudes, alors on a décidé, ici, bon, je fais à l'avance, de prendre les altitudes comprises entre 12 et 19 mètres. Donc, 12 mètres d'altitude, il y a 872 pixels concernés sur la carte. 13 mètres d'altitude, il y en a 740, donc voilà l'ensemble des pixels. Donc, on a repris l'ensemble des pixels qui sont compris entre 12 et 19 mètres, et on les reporte sur la carte, puisqu'ici, en jaune. Donc tout ce qui est en jaune ici, c'est ce qui est compris entre 12 et 19 mètres, c'est-à-dire c'est le haut des terrasses de la vallée de la Seine, que vous voyez très bien suivre. Donc ça, c'est un avantage, bien sûr, bon, petit avantage, si vous voulez, mais enfin, c'est un petit avantage par rapport à la carte classique, bien sûr, c'est qu'on peut donc facilement repérer une classe d'altitude. Alors, on a fait un zoom ici sur cette zone-là pour que vous voyez peut-être ici, la zone qui est ici est zoomée ici, enfin, on va me dire que je fais du franglais, non, elle est grossie, pardon, excusez-moi. Donc, cette région est grossie, ici, en bas à droite. Et vous voyez qu'il y a un inconvénient à notre système. C'est que, comme ces éléments de base sont des carrés, bon, quand on a agglutiné des carrés, ça reste toujours des carrés. Et vous voyez, quand on regarde... Alors, ça ne se voyait pas sur cette, à cette échelle, mais quand on a, non pas zoomé, mais pas grossi, eh bien, vous voyez qu'on voit qu'il y a des carrés qui apparaissent. Donc, il y a une petite déformation, une petite qui ne devrait pas se produire. Donc, alors ça, ce format, ce qu'on appelle le format grid. C'est-à-dire qu'en fait, on a reporté le MNT selon une grille géométrique. Donc, on peut faire mieux que le modèle grill, c'est le module TIN. Alors, je vous dis TIN parce que c'est le, enfin, ça, c'est fait sous un logiciel qui s'appelle ArcInfo. Et qui a plusieurs modules. Et le module TIN est quelque chose d'assez compliqué. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails du module TIN. TIN, ça veut dire Triangular Irregular Network, c'est-à-dire réseau triangulaire irrégulier, ce qu'on appelle en français courant, enfin courant pour les initiés, la triangulation de Delaunay. Donc, on a utilisé ici un système de triangulation de Delaunay. C'est ce système donc appelé en anglais le système TIN. Alors, je ne peux pas vous l'expliquer trop en détail, c'est un peu compliqué, mais en fait, l'idée, c'est de ne plus servir de carré, mais d'adapter des triangles aux différentes altitudes et de choisir les triangles qui s'adaptent le mieux aux altitudes. C'est-à-dire, on fait en fait une sorte d'un plan d'ajustement linéaire entre des altitudes, qui sont donc la troisième échelle en 3D, des altitudes et ce plan. Et quand une altitude est un peu trop loin du plan ajusté, à ce moment-là, on la fait passer dans un autre triangle. Ce qui est bien, ça répond bien à ce qu'on dit, c'est un réseau de triangles irréguliers. Donc les triangles eux-mêmes qui sont conservés passent le plus près possible des différentes altitudes. Donc on a, si c'est assez plat, on a des grands triangles, et puis si c'est en pente, on a des petits triangles. Le gros intérêt, c'est que les triangles s'ajustent entre eux bord à bord, parce que ne faisaient pas les carrés. Donc, évidemment, on a lissé les surfaces. Et vous voyez que là aussi, on a grossi cette partie-là, la voilà ici, et vous ne voyez plus apparaître le système des petits carrés qu'il y avait tout à l'heure dans le module grid, mais vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus lissé. Alors, ça nous permet maintenant de passer à une visualisation en 3D. Alors ici, c'est toujours le même méandre de Rouen. Je ne vais pas sortir de la zone. Le même méandre sur lequel vous voyez qu'on a reporté les altitudes selon des couleurs. Ce qui est en clair, c'est les couleurs les plus élevées. Bon, ne vous y méprenez pas, hein, on est en Seine-Maritime, les altitudes les plus élevées ne dépassent pas 200 mètres, donc ce n'est pas de la glace hein, qu'il y a ici, c'est de couleur claire simplement. Bon, et puis ces couleurs-là représentent les altitudes les plus basses, ici bien sûr c'est la vallée de la Seine. Donc on a reporté ça sur un module, une visualisation en trois dimensions, ce qui permet de faire apparaître le relief d'une façon beaucoup plus nette. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on peut faire on peut faire de la superposition de couches. Donc sur ce modèle numérique de terrain reporté en relief, eh bien on a reporté ici les densités de population par îlot INSEE. Une donnée tout à fait différente. Mais à partir du moment où notre carte des îlots INSEE, évidemment, ça a l'air simple comme ça, mais ça demande assez de travail, ce truc. Lorsque on a les îlots INSEE exactement dans le même référentiel géographique et exactement à la même échelle, à ce moment-là, ben, c'est un jeu d'enfant, on le superpose à cette image en 3D. Alors on voit qu'il y a des fortes densités ici, c'est le centre-ville de Rouen, et puis ça s'étale ici sur les plateaux, et ça s'étale ici sur la rive gauche, et ça s'étale dans une petite vallée qui sont ici. Donc, et chacun, alors là, ce n'est pas toujours très visible, il faudrait faire un grossissement, mais évidemment, les couleurs ici, je n'ai malheureusement pas oublié de mettre la légende, je m'excuse, mais les couleurs représentent, donc correspondent à des densités de population par îlot INSEE plus ou moins fortes. Bon, voilà quelque chose de plus simplifié. On a porté ici simplement les espaces bâtis. Donc, sur ce même modèle en 3D, on a porté en rouge l'espace qui est bâti, en vert les forêts qui sont ici, qui sont là et qui sont ici. Et puis en jaune, ben, c'est ce qui est ni bâti ni forêt. Alors ici, dans l'agglomération, ce sont des espaces industriels le long de la Seine. Et ici, en campagne, eh bien, ce sont des espaces cultivés. Donc on a là une image assez claire de la ville. Puisque, alors je reviens à des images à plat. Bon, pour revenir un petit peu sur ce problème de superposition des couches. On a superposé, alors les couleurs de fond ici représentent les altitudes, et on a superposé les altitudes, les densités de population, je les montrais tout à l'heure. On a rajouté également les limites de communes, et on a rajouté bien sûr la Seine qui est un point de repère. Bon, alors je passe vite sur un certain nombre de cartes qui sont ici par exemple la répartition des cadres supérieurs dans la ville, qu'on a aussi superposé à cette même échelle. Bon, une des caractéristiques de Rouen, c'est une opposition sociale marquée entre le centre-ville et les plateaux rive droite, qui sont des quartiers aisés et où les cadres supérieurs sont nombreux, et puis l'ancienne vallée industrielle qui est ici, et puis la rive gauche, où est ici, on est en arrière des quartiers industriels, où les cadres supérieurs sont moins nombreux. Évidemment, si on prend la carte des ouvriers, bien, elle est le dual de la carte des cadres supérieurs, c'est-à-dire que les ouvriers, on va les trouver sur la rive gauche et dans la vallée, les voici. On a ici, bien sûr, assez peu d'ouvriers dans le centre-ville et sur les plateaux rive droite. Et on a par contre une population ouvrière nombreuse sur la rive gauche et dans l'ancienne vallée industrielle textile qui est ici à l'ouest de la ville, ainsi que dans cette autre ancienne vallée industrielle textile qui est ici à l'est de la ville. Bon, on peut voir d'une façon plus concrète comment s'opère la superposition des couches. Ah, j'ai un petit problème, je voulais vous montrer. Alors là, je vais être obligé de ressortir le diaporama. Bien, non, attention. Bon, là, je... Bien, je voulais simplement vous montrer une animation, mais apparemment, ça ne marche pas comme j'aurais voulu. Alors, j'ai une petite opération à faire. Voilà. Bien. Bon, simplement, je voulais vous montrer comment donc récapituler un peu tout ça. On est passé du modèle numérique de terrain avec le modèle TIN, le modèle GRID, puis le module TIN, puis la visualisation en 3D, puis la superposition des couches sur la superposition de la couche des limites de communes, puis la Seine, que voici, puis ensuite les données sociales sur la répartition de population, la répartition des ouvriers dans la ville. Non, il y a un problème. Ah. Bien, non, il faut que je revienne au diaporama. Bon, alors là, j'ai un petit problème parce que je suis sorti du diaporama pour faire mon lien. Donc, effectivement, on est un peu en problème. Bon, ce que je voulais vous montrer ensuite, c'est un deuxième élément de repérage. C'est le fait que la carte informatisée peut servir pour l'aménagement du territoire. Donc, le problème d'aménagement qui porte aussi sur la même agglomération, que je voulais vous montrer, c'est celui des friches industrielles. Voilà. Bon, ici, on a simplement une friche industrielle, c'est un terrain qui a été occupé par l'industrie, et puis l'industrie a disparu, l'entreprise a fait faillite. Et il est resté sur le terrain, quelquefois rien du tout, le terrain peut être resté vide, ou bien il est resté des constructions industrielles, souvent assez médiocres, qu'il faut essayer donc de réutiliser. Donc on s'est placé dans l'optique d'un hypothétique investisseur japonais, par exemple, qui voudrait s'installer à Rouen et installer son usine, et qui cherche donc, bien sûr, il ne va pas s'installer avec son usine à côté de la cathédrale, ni non plus en milieu rural. Il cherche à s'installer dans un terrain industriel disponible, donc il peut reprendre une friche. Donc on a ici une carte des différentes friches qui sont en noir. Donc certaines sont très vastes, d'autres sont plus petites, certaines sont dans le centre-ville, certaines sont près de la Seine, certaines sont dans l'ancienne vallée industrielle. Donc il y a un premier élément de réflexion qui est de se dire, au fond, où veut-on s'installer, dans quel cadre ? Et quand on a choisi, par exemple, cette localisation-là, eh bien, on peut avoir la friche en plus grand. Et on a ces caractéristiques ici, c'est la friche Linoleum. Bon, ça a dû faire faillite, cette affaire-là. On a le nom de la friche, on a sa surface ici, elle fait 5 hectares. Il y a une surface bâtie sur la friche qui fait 1,5 hectare. Donc, on a effectivement d'autres. On a le propriétaire, on a le type de bâti. Il y a du bâti qui est en briques rouges. Bien, date de construction de ce bâti, 1900. Donc, on a un certain nombre de caractéristiques de cette friche industrielle. Et si on veut même aller plus loin, on a le plan cadastral qui permet de voir exactement qu'à côté, ici, on a une rivière qui serpente gentiment près de la friche. On a une route 4 voies qui apparaît là, qui n'est pas très loin. On a ici une rue du village et on a la friche elle-même qui apparaît. Bon, je n'insiste pas, mais vous voyez que là, on a une utilisation d'un système d'information géographique à la disposition d'un aménageur. Pour finir sur ces problèmes de repérage, autre exemple de ce repérage, c'est l'utilisation pour les services médicaux d'urgence. Alors, on n'est plus dans la région de Rouen, maintenant dans la pointe du Caux, dans la région du Havre. On travaille ici avec le SAMU. Et on a ici la localisation, ce sont ces flèches, ces étoiles-là, des différents SMUR. Les SMUR, ce sont les services médicaux d'urgence. Services médicaux d'urgence apparaissent ici, et les petits personnages qu'on a indiqués là, bien, ce sont des gens qui appellent le SAMU, parce qu'ils ont eu un problème. Ils appellent le SAMU, et effectivement, il faut avoir travaillé un moment, on l'a fait bien sûr, avec les gens du SAMU, pour se rendre compte qu'à certaines périodes, en particulier le dimanche soir avec les gens qui se coupent avec leur cisaille ou leur tronçonneuse. Il y a des appels qui peuvent être nombreux à peu près au même moment. Ce qu'on a fait avec le SAMU du Havre, il ne faut peut-être pas le dire, mais c'est que le SAMU avait un logiciel qui a permis de repomper l'annuaire Minitel. C'est-à-dire qu'on a l'annuaire Minitel qui nous donne les numéros. Alors, bien sûr, les gens qui sont sur la liste rouge, bien ma foi, tant pis pour eux, ils l'ont voulu et on mettra plus longtemps à les secourir. Bien, mais pour les gens ordinaires qui ne sont pas sur la liste rouge, bien, on a leur numéro de téléphone, leur adresse précise, leur numéro et leur rue. Lorsque l'appel arrive, le numéro de téléphone de l'appelant apparaît sur l'écran. Donc on voit quel est le numéro qui a appelé. Et on a reporté ces numéros sur un système d'information géographique. C'est-à-dire, au lieu d'avoir savoir qu'un tel habite 12 avenue de la République, eh bien, on a sur la carte la localisation précise de l'appelant. Donc, ici, ce qui apparaît, c'est à la suite du coup de téléphone, non pas l'adresse en lettres, numéro et nom de rue de la personne, qu'il faudra ensuite rechercher dans un annuaire et dans le plan de la ville, mais on a sa localisation exacte sur le plan. Donc, à partir du moment où on a localisé cet appel, bien, il faut essayer de trouver quel est l'effecteur, c'est-à-dire le SMUR le plus proche, quel est l'intervenant le plus proche qui va pouvoir intervenir. Donc ici, bien sûr, on a pris l'exemple de cette personne qui est là. Le SMUR le plus proche est évidemment celui-ci. Donc c'est ce service médical d'urgence, cette ambulance-là, qui va donc être activée, puisque c'est elle qui est la plus proche. Mais l'ambulancier, en montant dans sa voiture, a évidemment un système d'informatique embarqué qui va lui indiquer non pas l'adresse auquel il doit aller, mais l'itinéraire. C'est-à-dire qui est indiqué ici. C'est-à-dire que voilà l'ambulance, le départ de l'ambulance, voilà la personne qui a appelé, et voilà, en fonction des études qu'on a faites sur la ville, le meilleur itinéraire. Meilleur itinéraire, c'est-à-dire celui qui n'a pas de sens interdit, qui prend des routes importantes. On s'est aperçu dans cette occasion qu'il fallait tenir compte dans les temps. Alors les temps sont indiqués ici, par rue, vous avez la rue ici, la distance à parcourir dans la rue en question, et le temps normal pour le parcourir. Et vous voyez qu'ici, au total, pour cette personne-là, eh bien, il faudra un temps qui est ici, donc 40 minutes, pour s'y rendre. En fait, on s'est aperçu à cette occasion, d'ailleurs, que les ronds-points étaient un élément de ralentissement important pour l'accès aux services d'urgence, parce que lorsqu'un malade, ça ne joue pas pour aller le chercher, mais quand on en revient, parce que lorsqu'un malade est allongé dans une ambulance, les ronds-points sont extrêmement dangereux pour lui. Donc il faut prendre les ronds-points à très faible vitesse. Donc en fait, contrairement à ce qui se passe pour la circulation normale, les ronds-points ralentissent beaucoup le système de circulation. Mais alors on l'a intégré dans cette carte. Donc en fonction de cette carte, l'ambulancier a son itinéraire pour se rendre à la personne qui a appelé. Eh bien, lorsqu'elle a récupéré la personne en question, il y a un médecin dans l'ambulance qui va indiquer quel est le service auquel il faut se rendre. Donc là, si c'est la cardiologie, on a le choix entre l'hôpital du Havre, l'hôpital de Rouen et deux cliniques qui sont ici. Donc effectivement, ça peut dépendre de l'avis du médecin, ça peut dépendre aussi de l'avis de la personne pour savoir effectivement où elle souhaite se rendre. Et si c'est un service d'urgence, ça peut être le Havre également, Lillebonne, Honfleur ici ou Fécamp. Ça peut être Fécamp si c'est une personne qui a eu cet accident et dont toute la famille habite à Fécamp, par exemple, bien que ce soit plus loin, on va le transporter à Fécamp. Bon, deuxième aspect de l'utilisation de l'informatique, c'est la simulation. Alors, on a ici un bel exemple de relief. Ce sont les falaises du Pays de Caux. Bien connu. Ici, pour les géographes chevronnés, vous avez une valeuse. Avec une valeuse, c'est une vallée sèche, parce que dans le calcaire, l'eau s'est infiltrée, c'est un paléoclimat. Et le débouché de cette valeuse sur la mer a été coupé par le recul de la falaise. Donc vous voyez que la valeuse, ici, débouche à une certaine altitude au-dessus du niveau de la mer actuelle. Par contre, la rivière qui arrive à Étretat, c'est une vraie rivière, elle a creusé la craie et elle passe donc dans des couches imperméables. Donc c'est une rivière qui arrive ici sur Étretat. Le problème justement de cette rivière qui arrive sur Étretat, c'est qu'il peut y apparaître des crues. Et vous voyez une crue qu'on a fait, qu'on a simulée ici. Et il y a eu 2 ou 3 ans, il y a eu d'assez graves problèmes à Étretat parce qu'il y a eu des pluies très fortes. Donc la rivière était gonflée. Et lorsque la marée est haute ici, on est obligé de fermer des vannes. Donc, en fait, l'eau qui arrive ici ne peut plus s'écouler vers la mer. Donc, la crue apparaît, comme vous voyez ici, à partir de la rivière. Et elle est arrêtée ici, bien sûr. Alors, l'idée que nous avions, là, c'était d'essayer d'évaluer l'importance des dégâts en fonction de l'importance de la crue. Donc voilà, évidemment, ici, une inondation hypothétique complète. Là, ça ne s'est pas produit. On a fait monter l'eau aussi de 25 mètres, c'est quand même un peu beaucoup. Rien n'arrête le géographe quand il fait une simulation. On peut la faire monter encore plus. La ville d'Étretat, évidemment, est un peu mal partie. Mais... ce qui a été fait dans le travail, je n'ai pas le temps de vous montrer, ça consistait à évaluer d'après la montée d'une eau, le montant de l'eau, de 50 cm, quels étaient les biens touchés, de façon à pouvoir aider les assurances à évaluer l'ampleur des dégâts, puisque, effectivement, ça peut être un entrepôt, ça peut être une maison particulière, et selon la hauteur de l'eau, on peut essayer d'évaluer quelle est l'ampleur des dégâts causés. Là aussi, j'avais une simulation, mais je ne sais pas si elle va se réaliser. Apparemment, ça ne se réalise pas dans ce cas-là. Si ça ne se réalise pas, je vais être obligé de sortir le diaporama. Ah, voilà, il y a un problème. Bon, alors voilà. On va échapper. Ah, alors là, je n'arrive plus à reprendre la main. Donc, ça, c'est les ennuis de ce problème technique. Voilà. Bon, eh bien, vous voyez que l'informatique, ça présente quelques inconvénients parfois, puisque même si on appuie sur Echarpe, il ne se passe rien. On va arrêter le programme. Voilà. Bon, on va y revenir. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va revenir, je m'excuse de cette interruption. Voilà. Bon, je vais plus recharger le système. Bon, effectivement, c'est toujours des petits... Bon, je voulais tout de même vous montrer la simulation d'être tas. Je suis obligé malheureusement là, de revenir à la racine. Voilà. Bon, nous tournons autour d'être tas, comme je vous dis. L'avantage, ça c'est un des avantages tout de même de la... de 3D, vous voyez, on peut s'arrêter ici. Donc, on a être tas, la vue par le sud. Et on peut donc tourner autour du site comme si nous étions en hélicoptère et revoir donc le être tas vu de la mer. Maintenant, on a vu être tas vu de la mer et on va simuler, là aussi, comme tout à l'heure, l'apparition d'une crue. Et comme rien ne nous arrête, cette crue peut être très importante. Elle est d'ailleurs très importante, et voilà même la disparition totale d'Etretat, qui est simulée. Mais l'eau, maintenant, rassurez-vous, l'eau va baisser. Et voilà Etretat qui réapparaît dans notre modèle numérique de terrain. Bien, voilà donc l'exemple là, de ce qu'on peut faire avec ce genre de choses. Bon, je voulais vous montrer maintenant un autre aspect de l'utilisation de simulation. C'est le fait qu'on peut très bien aussi sur un paysage donc implanter des images de synthèse. Voilà une partie de l'entrée de la ville de Rouen. Et donc, il s'agissait, dans le programme qui était là, de réfléchir sur l'entrée de ville. Vous savez que ce qui caractérise très souvent les entrées de ville à l'heure actuelle, c'est que... autrefois, quand on entrait dans une ville, on voyait apparaître les premières maisons, puis les clochers, puis le centre-ville, puis les magasins. Maintenant, on voit apparaître un premier cube, Décathlon, un deuxième cube, Centre Leclerc, un troisième cube, Atlas, donc, dont l'esthétisme n'est pas, en général, particulièrement brillant. Donc, vous savez que ces entreprises-là, d'ailleurs, ne s'adressent pas à des architectes locaux, mais sont des architectes maison qui font des plans maison. On voulait réfléchir sur cette entrée de ville. Donc, nous avons l'entrée de ville ici, et en particulier, on voulait prendre l'exemple de... on voulait prendre l'exemple d'un hypermarché qui est ici, dans une zone pavillonnaire que je vais vous montrer, voilà. Bien, on a donc l'hypermarché qui est ici, Maxicop, son parking, et on voulait analyser la façon dont il se plaçait dans son environnement. Mais pour cela, eh bien, on a pensé que le mieux était d'imaginer, non pas de reprendre le paysage tel qu'il était, mais de modéliser ce paysage à partir d'un certain nombre d'exemples, de trames qu'on avait reprises ici. Par exemple, voilà un type de paysage urbain qu'on trouve le long de... On a pris quelques images de ce paysage pour en reproduire les types. Donc on a ici une banque de trams. On a une banque de trams. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je vais vous montrer quand même quelques-unes qui sont assez caractéristiques. Bon, celle-là, je ne sais pas ce que c'est. Attendez. Parce que c'est voilà un autre type de paysage. Donc, on a plusieurs trames possibles de paysages typiques. Un autre. Voilà. Donc, on a pris les types de paysages qu'on rencontrait le long de l'axe routier en arrivant vers Rouen. Alors, parmi ces types de paysages, bien sûr, il y a quelque part le Maxicop. C'est-à-dire, voilà. J'en ai un autre exemple ici qui peut être encore plus intéressant. Voilà. On voulait essayer de cacher ça. Alors, pour ça, eh bien, on a imaginé des animations possibles qu'on va reprendre. Voilà. Donc, un type d'animation qu'on peut réaliser. Et on s'est promené. Donc là, on a reconstitué le paysage avec un système animé pour voir ce qui se passait quand on était sur cette route. Bien, donc ça, c'est le paysage actuel. On a un projet ici en supprimant le centre commercial, mais enfin, bon, il existe quand même pas. et un nouveau projet qu'on a reconstitué ici. Voilà, un nouveau projet que je vais faire fonctionner aussi. Voilà. Donc, alors je ne peux pas rentrer dans le détail, mais voyez que là, on a mis des arbres devant. Mais dans d'autres cas, on peut implanter aussi d'autres façades devant cet hypermarché. On a un autre exemple que je voulais vous montrer ici. C'est parce que je trouve assez joli. C'est une amélioration de la signalisation urbaine. Vous voyez ici, la façade qui est là a été améliorée. C'est-à-dire qu'on lui a mis des morceaux de bois en longueur, en travers, pour donner l'impression, non pas vraiment de construction en vieux normand, en colombage, mais enfin, pour imaginer un petit peu quelque chose de différent. Et puis des arbres, bien sûr, pour le cacher. Donc, on peut simuler, bien ça, l'idée du paysage. Donc, je n'ai pas, évidemment, le temps de rentrer trop dans le détail de cette simulation. Mais vous voyez que il y a donc là, on dépasse de beaucoup la carte elle-même, mais on est dans le système d'information géographique. C'est-à-dire qu'on enrichit la carte avec des choses qu'on peut voir, ou des paysages de synthèse. Il y avait un dernier exemple que je voulais vous montrer d'utilisation aussi de la cartographie. Je crois que je vais avoir fini comme ça dans les délais, si je n'ai pas de problème informatique particulier. Non, il faut que ce soit entré. Le dernier exemple que je voulais vous montrer de cette cartographie, de cette transformation cartographique, porte sur un exemple qui était réalisé par un collègue allemand de l'Université de Bochum, qui était une analyse du bruit dans un ensemble urbain. Bien, on a, je vais passer rapidement. Bon, on a donc ici une rue, un carrefour dans cette ville, et on a mesuré le bruit en décibels. Alors bien sûr, ici, on l'a mesuré au carrefour, alors là, il est particulièrement fort. On a mesuré le bruit ici dans ces maisons, alors avec des postes de mesure qui étaient ici sur les façades tournées vers la rue. Et puis, évidemment, des mesures qui sont faites derrière la maison, puisque là, le bruit de la rue est masqué par l'existence du bâti. Alors, vous voyez bien que, quand on regarde ça un petit peu, cette carte-là, de loin, on se dit, ben, ça doit faire pas mal de bruit ici. Et puis, quand on arrive là, effectivement, il y en a moins, parce qu'on est protégé loin de la rue, et puis on est protégé par les bâtis qui sont, par le bâti qui sont là. Donc, on a un certain nombre d'observations réelles du bruit en décibels. Donc, cette observation du bruit en décibels, on la retrouve ici, sur cette carte précise. Bon, alors là, on l'a cartographié, ce bruit, d'une façon un peu classique. C'est-à-dire qu'on a fait une carte en relief. Alors on voit bien que sur l'axe ici, bien, on a beaucoup de bruit. Donc la troisième dimension ici est proportionnelle à l'intensité du bruit. Et puis ici, on a moins de bruit. Ouais, on se dit, ça, c'est encore une figuration géographique bien traditionnelle. Hein. C'est une carte comme on les faisait autrefois. Alors, on va essayer d'aller plus loin. Et sur la carte qui est ici, eh bien, on a encore représenté le bruit avec des couleurs. Mais on a fait une légende ici, qui va ici vers ce rouge foncé. On arrive ici à 66 décibels, et ici, on est parti de 42 décibels. Et... Ah, alors là, le son ne marche pas. Alors, il y a un problème de son. Normalement, c'est un lieu. Normalement, ici, on doit entendre le son qui correspond à 42 décibels. Mais c'est une question de branchement du son. Ah, alors là, je n'y peux rien. Bon, c'est ennuyeux, j'aurais voulu vous montrer ça. Bon, ce qu'on... Mais on ne peut pas faire marcher le son ? Peut-on faire marcher dans l'exemple ? Il faudrait mettre plus fort. Voilà. Voilà, bon. Un petit peu plus fort encore. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, donc ici, on a le son, vous voyez, qui n'est pas très fort. Ça correspond, vous voyez ici, c'est indiqué le nombre de décibels quand on est là, c'est sur ce non, on est à 42 décibels. 42 décibels, nous allons approcher de la route ici, 50 décibels, 50, et nous sommes à 66 décibels. Mais on se dit après tout, là ce qu'on a fait là sur notre carte en couleur, c'est ridicule, c'est quelque chose qui fait double emploi, puisqu'on a le son que vous entendez qui vient d'arriver, donc c'est pas si fort, hein, Bon, je vais m'arrêter là, mais on va le reprendre tout de suite. Bon, on a le son qui est là, mais on entend déjà ce son. Alors, ce n'est pas la peine de le visionner en couleur, et puis d'avoir le son en plus. On pourrait, si on supprimait la couleur, mettre autre chose. Donc, on va reprendre dans un système strictement géoréférencé, c'est-à-dire la même projection cartographique et la même échelle. On va reprendre une photo aérienne qui représente la zone. On va reprendre une photo aérienne qui représente la zone, voilà, et on va mettre le bruit par-dessus. On a 66 décibels et ici on a 42 décibels. Ce que je voulais terminer là-dessus, pour montrer que finalement, le bruit, bien, on l'a ajouté à la place d'une couleur. C'est-à-dire qu'on avait une légende de carte avec des couleurs, on a commencé par des paliers de gris, puis ensuite on a mis des couleurs différentes, plus ou moins foncées, et bien maintenant, à la place d'une couleur, on met du son. Ce qui nous permet d'avoir de la place. Il ne fait plus de bruit. Ce qui nous permet d'avoir de la place pour mettre autre chose. Ici, l'aspect du bateau. Alors ici, vous voyez, ici, ça ne fait pas beaucoup de bruit. 42 décibels seulement. Parce qu'on est protégé par les immeubles qui sont là. Et puis, quand on arrive vers le parcours, le bruit s'est accentué. Voilà. Donc, vous voyez que dans ce domaine, la cartographie, l'informatique sert beaucoup. Bon, l'informatique sert beaucoup, mais je veux tout de même, si on a le temps pendant la discussion de suite, j'aurais voulu vous montrer quelques exemples de sites sur Internet. Je voulais vous dire tout de même pour finir, je tiens à peu près dans les temps, alors je ne veux pas dépasser, que l'informatique, évidemment, c'est très bien, mais il faudrait tout de même s'en méfier un peu dans certains cas. Malheureusement, je voulais vous le montrer, mais j'avais une... j'avais un transparent ici qui a disparu de la circulation dans l'intervalle. Je ne sais pas ce que vous en avez fait. Bien. Bon, mais tant pis. C'est terminé. J'avais posé un transparent ici qui n'y est plus. Bon, eh bien, je voulais vous montrer simplement ce transparent qu'il fallait quelquefois se méfier aussi de l'informatique et ne pas lui accorder toujours une confiance trop aveugle. Mais enfin, tout de même, par rapport à la carte traditionnelle que je vous ai montré tout à l'heure, je crois que ça peut pas mal servir. Voilà, merci.
Merci. Merci, professeur Guermont. Donc, avant de passer rapidement au débat, je voudrais juste signaler que donc, demain, nous recevrons Christian Grataloup qui nous parlera des espaces de la mondialisation. Donc, maintenant, nous allons tout de suite passer au débat. Y a-t-il des questions ?
Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Monsieur, j'ai apprécié le nombre d'applications que vous nous avez présentées au plan local. Mais il y a une question que je voulais vous poser. Vous nous avez dit au début, bien sûr, qu'il fallait transformer une surface sphérique en une représentation sur une surface plane, ce qui nécessite des systèmes de transformation, que ce soit Lambert, Mercator et autres. Je voudrais savoir quels sont les systèmes utilisés et comment peut-on passer de l'un à l'autre, parce que quand on passe du plan local au plan général de navigation, il faut donc pouvoir transformer. Voilà la question que je voulais vous poser. Merci.
Oui, en fait, les systèmes de projection en France, c'est essentiellement le système Lambert. Alors, on a Lambert 1, Lambert 2, Lambert 3. Lambert 1, c'est France du Nord. Lambert 2, c'est France du Centre. Et Lambert 3, c'est France du Midi. Bon, mais le plus simple, c'est d'utiliser du Lambert 2 étendu, puisqu'il y a aussi une projection, sa bonne projection, c'est la France du Centre. C'est le Lambert 2, mais qui est étendu au nord et au sud, ce qui permet quand même d'avoir toute la France avec le même système de projection. Bon, l'autre solution, c'est l'UTM, universelle transverse de Mercator, qui est aussi très utilisée au niveau mondial, surtout pour un certain nombre de cartes de transport aérien. Mais on a du Lambert aussi, des projections Lambert utilisées en Amérique du Nord et également en Europe. Alors, il y a effectivement un problème. Alors, le problème du passage d'une projection dans l'autre, n'est pas un problème. Il est résolu puisqu'il y a des logiciels qui le font très bien. Alors, je vous dirais même que je ne sais pas trop comment ça marche. Et c'est un peu du presse-bouton. Donc, on peut passer d'une projection dans l'autre avec des systèmes informatiques sans problème. Bon, là où il y a un problème, c'est évidemment pour les cartes européennes, parce que c'est vrai que, quand l'Europe était à 6, maintenant qu'elle est, bon, quand elle s'est agrandie, mais ça commence à poser des problèmes. Non, si elle continue de s'agrandir, enfin, ça n'avait pas l'air très vite, mais enfin, si elle continuait de s'agrandir vers l'Est, ça poserait de plus en plus, effectivement, de questions pour avoir une cartographie très homogène. Parce que, bien entendu, quand on a une cartographie qui descend à grande échelle, on est obligé d'avoir des projections de plus en plus précises. Donc, le même problème se pose d'ailleurs en Amérique du Nord. Et c'est vrai que si on veut avoir des échelles précises sur une très grande distance, là, ça pose un problème. Et ce qui ne se posait pas, en fait, avec la carte traditionnelle, parce que la carte traditionnelle, elle était coupée en morceaux. On avait la feuille de Nancy, la feuille de Strasbourg, la feuille de Paris, nord, sud, etc., la feuille de Rouen. Là, en fait, avec l'informatisation, il n'y a pas vraiment de limite. Il n'y a pas la feuille de tel endroit. On peut très bien, d'une feuille, passer à l'autre. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on passe d'une feuille à l'autre, il peut y avoir des déformations, si on est à grande échelle. Et ça, je crois qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle dans ce domaine. On est obligé, là, de pratiquer des ajustements. Si on s'éloigne, évidemment, de la bonne zone de projection.
Une question là.
Bonjour. J'ai remarqué tout à l'heure que vous avez éprouvé quelques difficultés à manipuler vos cartes informatisées. Je pense qu'il aurait été sans doute plus facile, voire plus agréable pour vous, de présenter des cartes traditionnelles. On se demande donc si l'informatisation systématique et effrénée de toutes les sphères de notre existence, y compris la géographie, est vraiment indispensable. La question que je souhaite vous poser, c'est celle de savoir si le tout informatique constitue un vrai progrès ou alors simplement une espèce de mode technique ou technologique imposé par les marchands. Et si c'est un réel progrès, doit-il englober l'ensemble de la vie humaine ou bien il faut, au contraire, réserver ce progrès uniquement au domaine où il est vraiment utile et nécessaire. En somme, faire un choix dans l'utilisation de l'informatique et ne pas succomber béatement à cette mode compliquée et pas toujours fiable à 100%.
Merci.
Bon, vous posez un problème qu'on ne va pas pouvoir résoudre effectivement dans les 10 minutes. Le fait de passer à l'informatisation n'empêche pas les gens d'avoir toujours besoin de raisonner et de réfléchir. Ça, je crois que c'est absolument évident. Donc, il ne faut pas croire que l'informatisation, ce soit un système miracle qui nous empêche de réfléchir. Maintenant, d'un autre côté, je crois qu'on ne peut pas passer à côté de modifications techniques quand elles sont extrêmement généralisées. Et en particulier, bien sûr, je veux bien croire qu'il y a un rôle des marchands, mais vous savez, les marchands, ils ont toujours eu un rôle, hein, pas nécessairement en informatique, hein, donc le rôle des marchands, c'est pas quelque chose qui est apparu actuellement, et ça a toujours existé. Le problème, c'est que je crois que la France a quand même pris un certain retard dans l'informatisation, pas dans tous les domaines, mais par exemple en cartographie. Et c'est vrai que ce retard est important, et surtout que je ne crois pas qu'on puisse d'un côté dire qu'on est envahi par la technique américaine si, de notre côté, on ne fait rien pour contrebalancer cette technique américaine. Et on ne peut pas contrebalancer la technique américaine avec des solutions du passé, parce qu'à ce moment-là, on va se laisser totalement envahir. Et je dis que si nous avions déjà depuis longtemps une informatisation totale de notre cartographie, on ne serait pas obligé de passer par des sociétés étrangères, on ne serait pas obligé d'acheter moins cher des MNT américains, on ne serait pas obligé de s'adresser à Teleatlas ou à Navtech, qui sont des filiales de groupes étrangers, mais on aurait des solutions françaises. Et je crois que ça, c'est valable dans tous les domaines. Je vais prendre un exemple en informatique, si je suis lancé sur ce thème, je ne vais pas m'arrêter. Mais quand je pense qu'il y a quelques années en France, il n'y a même pas très longtemps, on a lancé l'idée du Minitel, et j'ai vu des émissions de télévision où on se moquait des Américains, les pauvres malheureux, ils n'ont même pas le Minitel. Eh bien, avec le Minitel, on a pris des années de retard par rapport à l'Internet. Eh bien, de la même manière, je me souviens aussi qu'il y a une vingtaine d'années au ministère de l'Éducation nationale, on a mis une équipe de chercheurs en informatique pour mettre au point un basique en français. Bon, maintenant, on ne programme plus en basique, primo, et de toute façon, que le basique soit en français ou en anglais, ça n'a vraiment aucune importance. Donc, on a mis une équipe qui a travaillé pendant des années pour rien au ministère pour faire un basique français. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Et si on veut réellement faire pièce à l'influence anglo-saxonne, bien, ce n'est pas avec des méthodes du 19e siècle qu'on y parviendra.
J'ai une question là.
Je suis là. Vous avez parlé de la numérisation des cartes et vous nous avez donné des exemples superbes d'applications, mais vous ne nous avez pas du tout parlé du recueil des données. En particulier, il y a eu, il me semble, des progrès qui ont été très importants, en particulier dans l'utilisation des satellites pour recueillir ces données. Je pense à un article récent du Monde à ce sujet sur le recueil du relief, justement par satellite. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Oui, ça, non, je n'ai pas parlé de recueil satellite, mais je devais tenir dans les 50 minutes. C'est vrai que pour le recueil des données, il y a effectivement des images satellitaires qui sont un élément important. On s'en est servi dans un certain nombre de cas, mais les exemples que je décide, effectivement, ne sont pas évidents. Ça aussi, c'est le satellite Spot, d'ailleurs, qui a servi dans ce domaine. Là, il y a eu dans ce domaine-là, on peut dire qu'il y a eu des progrès importants français qui ont été faits, parce que les données fournies par Spot sont certainement de grande qualité par rapport à ce qu'ont été longtemps les images Landsat américaines. Il y a des images radar également. Mais bien sûr, l'image satellitaire, elle donne des renseignements précis sur l'utilisation du sol, sur le relief. Quelquefois, même aussi, on les utilise en Amérique latine pour découvrir des champs de drogue. Mais en général, elle ne donne pas beaucoup d'éléments, effectivement, sur les données sociales. Donc, il faut évidemment les combiner avec des données sociales, type de recensement et d'enquête. Mais c'est vrai que travailler sur l'apport de la télédétection, mais c'était une autre conférence, ça n'est pas prévu, c'était une autre conférence à elle seule. Alors il aurait fallu 367 jours dans l'année. Voilà. Mais ça mériterait une séance particulière, je crois. Parce que...
ouais, c'est encore mois de décembre.
Pas programmé. Une question là.
Oui, quelqu'un.
Bonjour. Bonjour et merci de votre exposé. Vous avez parlé des données population que vous utilisiez et les données du recensement 90. On a essentiellement parlé des données physiques. Le recensement aujourd'hui, dans la forme où il existe, est remis en cause. Et puis les recensements sont assez espacés. Est-ce que vous utilisez d'autres données pour la population? Enfin, je pense aux données impôts, aux données de l'éducation nationale, aux données des CAF, etc. Et sur quel mode travaillez-vous avec la CNIL? Voilà.
Oui, c'est encore alors un vaste problème, donc il va nous entrer très loin. Bon, sur le recensement, il est évident qu'il y a un gros problème quand même sur lequel il faut insister en ce moment, c'est que à partir de... Enfin, le recensement 99 a été le dernier recensement que l'INSEE a fait. Et à partir de 2003, 2004, 2005, il n'y aura plus de recensement généraux en France, mais des enquêtes par sondage au cinquième. Alors, le problème de ces sondages au cinquième, c'est qu'ils prendront pour base les logements et les immeubles. Donc, vous voyez qu'on va revenir à l'aspect géographique tout de suite. C'est que ces cartes d'immeubles ne sont pas actuellement faites par l'INSEE. Donc, l'INSEE est en train, en ce moment, de mettre en place un système d'information géographique qu'on appelle le RIL, Répertoire informatisé des logements. Et ce répertoire informatisé des logements placera en X et Y tous les logements à l'adresse du numéro. C'est-à-dire qu'on prendra le numéro de l'immeuble, ou s'il y a plusieurs immeubles dans une cour avec un même numéro, on aura le numéro. Et ce numéro sera placé en X et en Y sur des coordonnées Lambert 2. Donc normalement, mais ça c'est espéré, normalement on peut penser qu'en 2003-2004, on aura donc une cartographie complète de tous les logements français. Et ensuite, eh bien, c'est cette base qui servira pour faire le recensement au cinquième. C'est-à-dire qu'on prendra dans ces logements un logement sur cinq par zone, par petite zone, et donc sur cinq ans, tous les logements auront été recensés. Maintenant, le problème géographique qui se pose et le problème CNIL qui se pose est de savoir si cette carte de répertoire informatisé des logements sera mise à disposition des chercheurs ou du public. C'est-à-dire, parce que si l'INSEE sort ses recensements sans nous dire où sont les gens recensés, évidemment, l'avantage géographique sera extrêmement mince. Donc, il y a un débat en ce moment, effectivement, qui est en cours avec l'INSEE. Et la CNIL, enfin, il faut dire aussi que, je ne veux pas dire du mal de l'INSEE, qui est une institution très honorable, mais très souvent, l'INSEE se retranche derrière la CNIL pour faire une rétention d'informations, en disant, ça, on ne peut pas vous le donner, vous savez, parce que la CNIL ne serait pas contente. Alors, ce serait intéressant d'avoir une réunion, c'est que personnellement, je propose, mais je n'ai pas encore pu l'obtenir, une réunion où il y ait des géographes d'un côté, l'INSEE de l'autre, et la CNIL, et que tout le monde parle ensemble. Ce genre de choses, je n'ai pas pu l'obtenir. Et en fait, je crois que ça tient un petit peu à un dilemme qu'il y a avec les sociologues, c'est-à-dire que les sociologues ont besoin, à partir de recensement, de données assez précises sur les individus, leur profession, leur situation matrimoniale ou non matrimoniale, etc. Ce n'est pas le problème des géographes. Les géographes ont besoin de données à une échelle beaucoup moins précise que la personne, à l'échelle du quartier ou à l'échelle de l'îlot. Donc, ce qu'il faudrait, ce serait une discussion avec la CNIL sur qu'est-ce que c'est qu'une donnée confidentielle. Est-ce que le fait de savoir que dans un quartier, il y a 3% de commerçants et 5% de cadres supérieurs, est-ce que c'est une donnée qui atteint à la vie privée? À mon avis, non.
Une dernière question là-haut.
C'est une question, professeur, sur la discipline. C'est une question que j'aurais dû poser hier à Madame Collignon. Vous, à part la technicisation du métier, au fond, comment peut évoluer votre discipline? Parce que si je comprends bien les quelques données de définition hier et aujourd'hui, la géographie me dit que je suis avenue Saint-Martin 298 ou que la Seine coule à Paris et à Rouen, où je suis dans la forêt africaine, équatoriale. Mmh. Une fois qu'on m'a dit ça, bon, comment après qu'est-ce qu'il y a après? Je veux dire, est-ce que quelque part, on ne risque pas de rester sur sa fin une fois qu'on m'a dit que je suis situé quelque part? Point. Qu'est-ce qui peut venir après dans votre métier? Sauf que vous allez faire des cartes en couleur, comme tout à l'heure, quelquefois avec des difficultés, parce que la nature du métier est compliquée. Merci.
Merci. Oui, ce que vous dites là avait déjà été dit par Pascal hein, au XVIIe siècle. Vous le dites aussi bien d'ailleurs que Pascal. Pascal disait, en fait, je me demande bien à quoi servent les géographes, puisqu'ils savent où est placé le premier méridien, et ils placent les autres à la suite, et les parallèles, et le premier parallèle. Et la géographie, donc, contrairement aux autres sciences, les vraies sciences sérieuses, pas comme la physique, puisqu'il était plutôt physicien, les sciences sérieuses, elles ont besoin d'être augmentées pour devenir parfaites. Et les géographes, eux, ils savent déjà où est le premier méridien et le premier parallèle, ils ont tout placé, donc ça y est, c'est fini. Il n'y a plus besoin de chercher en géographie, c'est pas comme les vraies sciences qui ne sont jamais finies. Bien, moi, je pense que la géographie, ça n'est jamais fini. Donc, en ce sens que c'est bien une science. C'est bien une science parce que je crois, mais là, on est un petit peu trop de temps, mais bien sûr, ça a l'air un peu technique de faire des cartes. Mais faire des cartes, si on les fait, c'est pour comprendre quel est le rôle de l'espace sur les choses. Et d'abord, ça permet de voir que, je vais montrer l'exemple de Rouen et de la ségrégation qu'il peut y avoir dans la ville de Rouen, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le fait que de savoir comment se répartissent les catégories sociales dans une ville, ce n'est pas indifférent pour comprendre justement les problèmes éventuellement de malaise social qui peuvent se produire. Et puis je dirais aussi que le fait de connaître un peu mieux tous les autres pays du monde, j'allais dire, j'entendais ce matin en venant en voiture Yehudi Menuhin sur France Musique qui disait quand il avait un rêve d'enfant, il pensait quand il était enfant, il disait c'est vraiment tout à fait bête ce que je vais dire là, il croyait que quand il jouait du violon, ça allait empêcher les guerres. Et bon, bien sûr, ça n'empêche pas les guerres, mais j'allais dire que quand on fait de la géographie, on est amené à mieux comprendre ce qui se passe ailleurs et à mieux comprendre les points de vue des uns et des autres. Et pour comprendre les points de vue des uns et des autres, il faut aller un peu dans le détail. Hein. C'est pas en se promenant 5 minutes dans un pays qu'on comprend un pays. Mais pour comprendre vraiment les relations qu'entretiennent les gens avec leur territoire, il faut vraiment bien les comprendre. Et à partir du moment où on les comprend, bien, on les comprend complètement. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'idée a priori sur ce qui se produit. Donc, bien oui, c'est ça, je crois que la géographie, ça mérite d'être approfondie, parce qu'on n'approfondira jamais assez, justement, l'amélioration des relations entre les hommes.
Voilà. Professeur Garmon, je vous remercie.